France Inter.
Le metteur en scène, directeur et fondateur de la compagnie Le Théâtre des Nuages de Neige et ancien directeur du Théâtre de la Colline, Alain Françon, a donné à voir une centaine de pièces depuis sa cofondation du Théâtre éclaté d'Annecy en 71. Il dirigea le Centre dramatique national de Lyon Théâtre du 8e et fonda le CDN de Savoie. Récompensé à de nombreuses reprises, notamment pour ses mises en scène de La Cerisaie d'Anton Tchekhov, Pièces de guerre et Dans la compagnie des hommes d'Edward Bond, Qui a peur de Virginia Woolf d'Edward Albee, Celle-là et le chant du dir-dir de Daniel Danis ou encore Avant la retraite de Thomas Bernhard. Il a aussi porté à la scène William Faulkner, Phédo, Christopher Marlowe, Ibsen, Racine, Offenbach, Strindberg ou Jean-Jacques Rousseau. Au Théâtre des Bouffes parisiens jusqu'au 4 février prochain, on peut voir sa mise en scène de l'unique pièce de théâtre du prix Nobel de littérature Claude Simon, La Séparation, avec Léa Drucker, Catherine Yégel, Catherine Ferrand, Pierre-François Garel et Alain Libolt, tandis qu'au Théâtre du Petit Saint-Martin se joue jusqu'au 17 janvier sa création d'O les beaux jours de Samuel Beckett avec Dominique Valadier et Alexandre Ruby qu'on voit surtout de dos. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Alain Françon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Qui m'a enthousiasmé ?
Vous n'êtes pas du genre à vous enthousiasmer ?
Ben non, j'étais en train de réfléchir parce que j'aurais pu vous dire la victoire de Saint-Étienne contre Dunkerque, mais ils ont perdu. Donc, c'est foutu, quoi.
Alors, rien.
Si je suis en train de lire un livre d'une amie philosophe, Myriam Revaud-Dallone, le titre c'est « Passion publique ». Et je trouve magnifique qu'elle se soit attachée à ça, c'est-à-dire à essayer de comprendre comment dans la politique il n'y avait pas seulement la raison, il y avait aussi les passions et qu'il fallait trouver l'équilibre entre les deux. Et je trouve ça assez passionnant, justement.
Quel est votre rapport justement à la politique dans l'art et à la politique dans le théâtre ?
Bon, vous savez, je viens d'un théâtre profondément militant. Donc le premier spectacle, par exemple, qu'on a fait au Théâtre éclaté. Avec Gisèle Halimi, oui, c'était sur le procès de Burgos. Et évidemment, à l'époque, on saluait, c'était un collectif, hein, et on ne saluait même pas, on distribuait des tracts qui appelaient à la révolution marxiste-léniniste. Donc, je viens de là. Après, j'ai compris de plus en plus qu'il fallait faire attention, justement, pour respecter la forme théâtrale, respecter la représentation, respecter les spectateurs, etc. Il fallait faire attention et... Maintenant, je suis de plus en plus, je me méfie de plus en plus de toute intentionnalité trop précise, en ce qui me concerne, en tout cas, quand je mets en scène.
Vous êtes même très critique avec l'intentionnalité.
Oui, j'ai l'impression qu'elle mène très vite au cliché, que c'est vraiment pas ce qui est la chose la plus intéressante à faire.
Pourquoi avez-vous appelé votre compagnie Théâtre des Nuages de Neige ?
C'est une pièce que je devais monter il y a très très longtemps, d'un auteur allemand qui s'appelle Wolfgang Bauer. Et la pièce s'appelait « La courte vie des nuages de neige ». Et je trouvais le titre très beau. J'ai jamais réussi à trouver l'argent pour monter cette pièce, donc je ne l'ai pas montée. Mais ça m'était resté dans la... Voilà. Et puis j'aime bien parce que nuages, c'est un peu... Il y a un côté sombre et puis de neige, c'est un peu plus blanc. Donc voilà, ça mélange entre les deux. Donc c'est un gris.
Mais c'est plus céleste que la compagnie des hommes.
Ah oui.
Vous élevez.
Oui.
Alors, vous n'avez pas poursuivi en tant que comédien puisque vous pensiez ne pas être assez doué.
Ah, je sais pas.
Mais il y a eu un vote. En fait, on vous a un peu poussé à être metteur en scène. On a voté.
Ah oui. Oui, mais ça, c'est formidable parce que c'est... mes camarades du Théâtre éclaté, quand on a décidé que j'étais le metteur en scène, moi, ça m'a légitimé une fois pour toutes. Donc après, j'ai plus jamais eu peur de rien, quoi. J'avais plus de problème avec ça. Je pense que c'était tous des grands acteurs, hein, Evelyne Didi, André Marcon, Christiane Coendi, bon voilà. Bon, je jouais comme eux, mais je pense que c'était pas fondamentalement une chose qui m'intéressait. J'arrivais pas à être libre quand je jouais, j'avais toujours l'impression d'être regardé, d'être... Non,
oui, c'est
c'était
clair.
Pas mon truc, quoi.
Vous avez donné une interview à Télérama récemment où vous n'êtes pas contre l'idée d'arrêter le théâtre bientôt quand votre instinct vous le signifiera pour renouer avec le dessin et la peinture.
Oui, c'est un vieux rêve, oui. Oui, oui, quand j'étais en philo, je commençais dans la cave du bistrot de mes grands-parents, je commençais à barbouiller un peu, à faire de la peinture et tout. J'ai tout abandonné ça pour faire autre chose, mais peut-être un jour ça reviendra. Enfin, en tout cas, peut-être le désir reviendra vraiment.
Les églises, à ce moment-là, n'avaient que des portes qui s'ouvraient de l'intérieur. Or, ces portes qui s'ouvrent de l'intérieur, finalement, hein, ça a été pour moi le théâtre. Et disons, une des premières pièces, elle est faite avec uniquement des portes qui s'ouvrent de l'intérieur. Et d'où venaient ces portes qui s'ouvraient de l'intérieur ? De la prison et de Tulle. Et de Nice, et de à toutes les fois que j'étais là, dans ma cellule, en train d'entendre les portes qui s'ouvraient, et à droite, qui s'ouvraient à gauche, bon, des gardiens qui passaient, qui allaient vers... Et tout ce monde, ces portes qui n'ouvraient que de l'intérieur, créaient un monde multiple. J'étais là, à l'écouter, essayer de le traduire pour me faire un comportement d'après eux. Et donc, ces portes de prison... ont été, en quelque sorte, pour moi, le début du théâtre.
Alain Françon, je vous ai vu sourire et vous me voyez venir, puisqu'on parlait des noms des compagnies et des théâtres. Et c'est Armand Gatti qu'on entend au micro de Laure Adler sur France Inter en 2009. Je crois que c'est lui qui vous a inspiré le nom du théâtre éclaté que vous avez cofondé à Annecy en 71.
Oui, c'était l'expression de lui qui disait éclater dans les formes, éclater dans les lieux. Donc ça veut dire qu'effectivement, on jouait dans la rue, on jouait dans les manifs, on jouait dans les foyers Sonacotra, on jouait partout, quoi. Et puis on adoptait des formes qui étaient à la fois, je ne sais pas comment dire, finalement très libres. Enfin, je veux dire, y compris dans une manifestation ou... Et puis, à l'époque aussi, Armand avait écrit une pièce qui s'appelait « La journée d'une infirmière ». Et on avait réadapté son texte... au problème des infirmières à Annecy, à l'hôpital, et on avait remonté la pièce que jouait Evelyne Didi, d'ailleurs. Et c'est un souvenir énorme, parce que j'ai retrouvé Armand beaucoup plus tard, quand j'étais directeur de la Colline. Il est venu faire des lectures, et un jour, il m'a dit « Mais toi, tu fais partie de la tribu ». J'ai dit « Bon, ben d'accord, j'étais content ».
Les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main.
On entend, on vient d'entendre, votre choix musical à un Françon, c'est Feu Chatterton, Allons voir.
Ah oui, parce que je les aime beaucoup, parce que j'ai eu la chance de travailler avec eux sur une pièce de La Biche, sur Le Chapeau de Paille. Et c'est des camarades de travail absolument magnifiques. Ils étaient là tout le temps, ils se remplaçaient. Des fois c'était Sébastien, des fois Antoine ou un autre. Mais en tout cas, ils étaient tout le temps là et... complètement intéressé par le travail, y compris me disant « Pourquoi tu fais ça? Tu ferais mieux de faire ça. » Bon, et c'était formidable, je veux dire. Et puis j'aime beaucoup leur musique aussi. Puis j'aime bien les hommes qu'ils sont, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des stéréotypes de rockers ou de... Non, voilà, c'est des gens profondément libres, intelligents et magnifiques.
Dis-le, même si ça n'est pas vrai.
Qu'est-ce que je dois dire?
Dis... Je suis content.
Je suis content.
Moi aussi.
Moi aussi.
Nous sommes contents.
Nous sommes contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content?
On attend Godot.
Oh!
Alain Françon, on entend un extrait de votre mise en scène d'En attendant Godot à la Scala en 2023 avec André Marcon et Gilles Privat. C'est une pièce qui, au départ, ne vous intéressait absolument pas. Votre imaginaire à son sujet était d'ailleurs pollué par les images que vous aviez de la mise en scène de Blin.
Oui, un peu. C'est-à-dire que c'est surtout la pièce de Beckett qui m'a... La première pièce qui m'a vraiment intéressé, c'est Fin de partie. J'ai vraiment, encore toujours, d'ailleurs, beaucoup d'amour pour cette pièce. Un peu moins pour Godot, parce que ça me semblait quelque chose de plus facile, plus aisé. Je crois qu'il avait mis 3 semaines à l'écrire, alors que Fin de partie, ça a duré des années. Et en fait, en la montant, j'ai découvert quand même que non, c'était beaucoup plus intéressant que ça. Mais j'avais une mise en scène de Blin qui était quand même magnifique avec Jean-Paul Roussillon et Michel Aumont, je crois que c'était à l'Odéon. Et c'était Blin, et c'était quand même très très passionnant déjà. Mais je ne m'y sentais pas de le faire, quoi. Peut-être aussi d'ailleurs que c'est comme au Les Beaux Jours, parce qu'il y a tellement eu deux représentations de ces pièces-là que quand on le fait, on se dit « bon, mais qu'est-ce que je vais raconter de plus ?» Et est-ce que c'est vraiment la peine de raconter quelque chose de plus ?
Je crois qu'il y a eu deux événements qui ont changé votre rapport à ce texte. D'abord, le Covid et la décision de fermer les théâtres et l'attente qui résida de cela. Et puis, en mars 2021, vous avez échappé à une tentative de meurtre à Montpellier. Vous pouvez revenir dessus ou je ne veux pas...
Non, c'est possible. Mais c'est-à-dire que quand ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de problèmes après. Et surtout pour pas rentrer dans le ressentiment, pour tout à coup me mettre à pas détester la terre quoi, entière. Et donc
vous avez reçu un coup de cutter dans le cou.
Oui. Enfin, par quelqu'un, par derrière, j'ai même pas vu le visage, rien, pas de mots, rien. Je sais même pas pourquoi ça m'est arrivé quoi. Enfin, sinon que après le procès a dit pourquoi. Mais enfin, et donc. J'ai eu de la chance parce que je montais Marivaux tout de suite derrière. Et donc, ça m'a énormément aidé parce que, bon, c'était la pièce sur l'amour, etc. Donc, ça m'a énormément aidé. Et puis, l'idée de faire Godot aussi, de trouver, je sais pas, il y avait quelque chose dans ces deux personnages qui attendaient. Je trouvais que dans leur attente, en fait, je me disais toujours, ils travaillent pour nous quand même. Cette attente, ça veut dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, par exemple, cette attente, justement?
Vous vous dites que ce n'est pas votre méthode de tirer un texte vers une actualité directe, mais que la pièce, justement, En attendant Godot, résonnait particulièrement, notamment quand Vladimir dit à Estragon « on n'a plus de droits » et que l'autre lui répond « on les a bazardés ».
On les a bazardés, oui. Oui, ouais, je pense que c'est... Mais il y a des intuitions comme ça. Enfin, chez Beckett, c'est même pas des intuitions. Tout à coup, il a des espèces de projections qui sont absolument lumineuses. Alors que je pense que c'est un auteur qui se défend de toute interprétation possible sur la moindre chose de ses textes. Enfin, je veux dire, c'est... Mais il y a comme ça, dans Les Beaux Jours aussi, je veux dire, c'est des perles. Enfin, c'est des choses magnifiques. C'est un poète, quoi, vraiment.
Eh oui.
Elle essaie de lire.
Pauvre Willy. Aucun goût pour rien. Aucun but dans la vie. Pauvre cher Willy. Bon qu'à dormir. Donc merveilleux. Rien de tel, à mon avis. Je l'ai toujours dit. Que ne le sais-je ?
Elle a mis ses
lunettes. Véritable pur. Quoi ?
Elle essaie de lire.
Quoi ?
Sur le manche.
Bientôt aveugle. Enfin. Assez vu, sans doute. Depuis le temps. Quels sont ces vers merveilleux ? Malheur à moi qui vois ce que je vois. Eh oui.
Madeleine Renaud, dans une répétition d'Aux les beaux jours de Samuel Beckett, mise en scène par Roger Blin à l'Odéon. En 1964, la pièce fait partie des rares à avoir d'abord été écrite en anglais, Happy Days. Oui. Beckett l'a traduite en français en 1963. C'est une existence suspendue entre immobilité et flot de paroles. Alain Françon, vous avez choisi Dominique Valadier pour interpréter Minnie, qui est une figure à la fois tragique et drôlatique. Et à l'époque où il écrivait, Beckett disait souhaiter mettre de la poésie en suspens sur scène. Comment l'entendez-vous ?
Je pense que l'écriture, elle est surtout ce qu'on a essayé de reproduire avec Dominique, c'est-à-dire d'être toujours dans l'instant, c'est-à-dire de ne pas anticiper les choses et de ne pas avoir de mémoire même de ce qui vient d'être fait. Donc l'instant, juste l'instant, pas plus. C'est aussi une des meilleures façons de fuir toute intentionnalité, comme ça, je veux dire aussi. Et donc je savais que Dominique, elle a cette capacité-là, finalement, de jouer l'instant comme ça et de passer aussi bien jouer une chose et son contraire en une seconde, quoi. Et donc ça, c'est une mobilité de jeu qui est magnifique. Je pense que chez Beckett, c'est très, très important. Et c'est pas du tout pour critiquer, mais j'ai revu, par exemple, un DVD de Madeleine Renaud qui est magnifique, mais où le jeu est beaucoup plus posé, par exemple. Et c'est pas tout à fait... L'impression n'est plus la même. Avec Dominique, l'impression, c'est que c'est en bouillonnement constant, intellectuellement, je veux dire, ou en tout cas au niveau de la pensée n'arrête pas de se déverser, quoi. Et il y avait une chose que je ne comprenais pas dans cette pièce. Il y avait deux phrases. Il y a un moment, elle dit « heureusement que le moulin marche ». Je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire, le moulin qui marche ? Ça ne se comprend pas. Puis tout de suite après, elle dit... Et d'ailleurs, heureusement, mes deux lumières, elle parle de ces deux lumières, comme quelqu'un qui serait dans sa chambre, ou je ne sais pas où, et de ces deux lumières, elle dit, quand il y en a une qui ne marche pas, l'autre brille plus clair. Et puis après, elle fait beaucoup de phrases sur la raison, et je me suis tout à coup dit, mais attends, alors le moulin qui marche, mais c'est le moulin à parole. Et de l'autre côté, la lumière, c'est la raison. Et donc, elle passe sans arrêt, comme nous, de la raison, tout à coup elle veut dire qu'elle a des intuitions incroyables sur le monde, y compris sur le monde, et même dans la situation où elle est. Et puis à des moments, c'est que de la parole, quoi, c'est de la parlotte même, à la limite.
C'est-à-dire qu'elle est enterrée, vous l'avez mis littéralement dans le désert, elle est dans le désert, elle a un monologue, on lui répond à peine.
Oui. Mais ça, si vous voulez, par exemple, la description du désert, par exemple, c'est là que c'est un homme magnifique. Beckett était un des plus grands metteurs en scène de ses pièces. Donc, chacune de ses pièces, il les a montées au moins 3 fois ou 4 fois. Et chaque fois, bon, sauf en France, parce qu'on ne l'a pas traduit, mais chaque fois, il y a ses cahiers de régie. Par exemple, le cahier de régie d'En attendant Godot, il fait au moins 280 pages. C'est énorme, parce qu'il n'arrête pas de corriger son texte, de corriger les didascalies, et puis surtout, il s'interroge lui-même comme le metteur en scène qui travaille à ce moment-là, interroge l'auteur. Par exemple, un exemple très bête, mais dans la dernière bande, le personnage de Crap est âgé, Si vous regardez les didascalies des éditions de Minuit, qui n'ont pas changé, c'est toujours inscrit qu'il a un pantalon trop court et qu'il a des chaussures de clown. Quand il le met en scène, il dit mais non, surtout pas, parce que à 60, je ne sais pas quel âge il a, il a vieilli. Quand on devient vieux, on rapetisse, donc c'est le contraire, le pantalon traîne par terre. Mais ça, je trouve que c'est, c'est formidable quand le metteur en scène Beckett se permet de dire ça à l'auteur Beckett, quoi.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne pouvait pas interpréter le texte de Beckett, mais là, on ressent tout de même une sorte de parole d'une lutte contre la mort, comme un élan vital de...
Bien sûr.
Ça, vous le ressentez aussi ?
Ah oui, 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 bien sûr. Ben, je pense qu'il y a ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même un sentiment profond de tragique, mais en même temps, c'est complètement émaillé de drôlerie, de jeux de mots, de... c'est quand même lui qui écrit... je sais pas, elle se retourne parce qu'elle vient de voir Willy et elle dit « Torticolis, à force de te regarder, mais ça vaut le coup ». Ça vaut le coup, c'est quand même lui qui écrit ça, je veux dire. En tout cas, en français, c'est lui qui a traduit.
Il y a beaucoup de leitmotivs, dont le vieux style. Comment est-ce que vous l'entendez, le vieux style ?
Alors, ça, par exemple, ça fait partie de ses corrections quand il l'a mis en scène. En fait, la première phrase qu'il a écrite et qu'il a traduite, c'est « parler dans le vieux style ». Et quand il l'a mis en scène, il s'est rendu compte que cette phrase était longue, qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas bien. Donc il en a pris juste la moitié, le vieux style. Donc comme justement une manière de parler ou une manière d'être dans les mots, quoi.
C'est le rythme qui est l'essence et le générateur d'une forme. C'est lui qui explique la phrase de Cézanne, « Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. » C'est-à-dire qu'elle est engendrée par le rythme. Le rythme qui est parvenu, disons, à l'extrême de lui-même.
On entend Henri Maldinet sur France Culture en 2002. Il a été votre professeur, Alain Françon, d'esthétique, de philosophie aussi. Et je crois qu'il vous a marqué sur la question du rythme.
Ah oui, oui. Moi, j'étais étudiant en histoire de l'art. Lui faisait les cours, y compris d'esthétique pour les philosophes. Donc nous, historiens d'art, on était un peu bêtes à l'époque. Enfin, pour assister aux cours de Maldinet, c'était... Mais on y allait, quoi. Puisqu'on avait un certificat, c'était le C1, qui était esthétique de toute façon. Donc il fallait... j'étais complètement impressionné, parce que intellectuellement, pendant ces cours, soit je prenais des notes, je ne cherchais pas à comprendre, soit j'essayais de comprendre, et à ce moment-là, je ne pouvais pas noter, donc je n'arrivais pas à faire les deux. C'est vrai que il parlait essentiellement de rythme, mais d'ailleurs, Michel Vinaver, l'auteur dramatique avec qui j'ai beaucoup travaillé, a assisté, par exemple, à des séminaires à l'abbaye de Sénanque, de Maldinet, et chez lui aussi, c'était devenu une obsession, le rythme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand je travaille, je pense beaucoup justement à tout ce qu'il pouvait dire. Quand, par exemple, il dit, Maldinet, où il écrit « Le rythme n'est pas dans le lit du fleuve, mais dans les remous de l'eau ». Bon, ben voilà, ça, il faut essayer de l'enregistrer, puis voir ce qu'on peut en faire quand on travaille, ou des choses comme ça, quoi. Il disait surtout une chose que je trouvais magnifique, il disait « Faites attention, le rythme, si vous le provoquez, si vous le cherchez, vous le trouverez pas, il advient. » Donc comment le faire advenir, justement, avec les acteurs, c'est sans rien imposer, mais de façon à ce qu'il advienne, oui.
Vous dirigez vos acteurs comme un chef d'orchestre ?
Je m'approche de ça, mais c'est pas aussi formel que ça, je veux dire, parce que, évidemment, pour parler du rythme, il faut bien s'appuyer sur quelque chose, donc on s'appuie sur, en plus, le français, les accents toniques, c'est pas vraiment très très précis, donc sur quoi portent les intensités, puis heureusement qu'il y a la ponctuation qui peut aussi aider à structurer, enfin, je veux dire, le rythme, on peut en parler, mais on sait jamais comment il advient vraiment, et c'est la grâce des acteurs, quand même, ça.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Avec mes amis Rob Grillet, Butor, Nathalie Sarraute, Robert Pinget, nous avons formé un groupe. Nous pensions que la littérature, dans le roman, dans sa forme traditionnelle, était quelque chose d'usé et que nous rejetions. Et chacun, à partir de là, chacun de nous a travaillé dans sa propre direction. Un des appellations que l'on a faites et qui était assez justifiée pour le nouveau roman, c'était d'appeler l'école du regard. Je suis plus curieux du comment des choses que de leur pourquoi. Je ne pense pas que l'écriture soit difficile, mais les gens s'attendent à trouver la répétition des mêmes formes, de formes traditionnelles que nous jugeons usées. Je ne pense pas autrement que ce soit difficile, pas plus que les impressionnistes n'étaient difficiles, mais lorsqu'ils ont exposé pour la première fois, les gens ont dit que c'était de simples barbouillages incompréhensibles. Maintenant, il y a 400 mètres de queue pour voir Renoir.
Le prix Nobel de littérature Claude Simon en 1959 sur la RTF. Alain Françon, vous montez Une séparation, son unique pièce de théâtre adaptée de son roman L'Herbe, paru en 58 aux éditions de Minuit. Vous en avez entendu parler par l'ayant droit moral de l'œuvre de Claude Simon, Mireille Kahlgruber.
Oui.
Vous admiriez déjà les romans de Claude Simon?
C'est-à-dire que oui, quand j'avais 30 ans, 35 ans, j'avais lu L'Herbe, j'avais lu surtout La Route des Flandres, oui, j'avais lu Le Vent aussi. Ça me passionnait, mais je ne pensais pas un jour monter les pièces. Et puis c'est parce que Mireille Kahlgruber, celle qui a les droits moraux de toute l'œuvre de Claude Simon, m'avait invité à Sérisy parce que je venais de monter une pièce de Peter Hand qui est à propos de Peter. Et puis ce jour-là, elle m'a parlé de Claude Simon, elle m'a parlé de la pièce et elle m'a donné la pièce qui venait d'être publiée aux éditions du Chemin de Fer. Donc je l'ai lu, mais je trouvais ça passionnant. Mais bon, et puis en répétition, je l'avais sur ma table et le directeur de la Porte Saint-Martin m'a demandé s'il pouvait le prendre et le lire. Je lui ai dit « bah oui, lisez-le ». Puis on n'en a plus jamais parlé. Puis 3 ans après, il m'a dit « est-ce que vous voulez faire ça à la Porte Saint-Martin ? » Je lui ai dit « pas à la Porte Saint-Martin, au Bouffe Parisien ». Je lui ai dit « bien sûr, d'accord ».
Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur Claude Simon qui est né à Madagascar en 1913 et mort à Paris en 2005 ?
Je pense que c'est un des immenses auteurs justement du nouveau roman. Mais je pense que même avant l'écriture, il a été peintre, photographe. Il a fait énormément de collages aussi. D'ailleurs, je pense qu'à Versailles, quand on va jouer la pièce, il va y avoir une rétrospective des peintures au musée de Versailles de Claude Simon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait il avait un prisme incroyable sur... Et puis c'est l'immense écrivain, mais c'est l'immense écrivain de... Comment dire, tout à coup, c'est comme si, dans ce qui serait la narration d'un roman normal, tout à coup, la narration, il la met de côté, tout à coup, il se met à décrire. Et alors, pendant des pages, il décrit quelque chose, il décrit du réel, quoi. Évidemment, c'est un drôle de truc, parce que d'habitude, je sais pas, y compris des gens comme Breton, quand il avait l'habitude de dire qu'il y avait une description, il fermait la page, ou il tournait la page. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est description sans arrêt, quoi. C'est pour ça qu'il parlait de l'école du regard, je pense, d'ailleurs. Et c'est comme si, justement, quittant la narration pour la description, tout à coup, il retrouvait la structure, il retrouvait une structure d'écriture. Et je dirais même, à la limite, qu'il pensait profondément que c'était politique, cette manière d'écrire. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir de Rancière sur les nouvelles de Tchekhov, qui s'appelle Au loin la liberté, où ce qu'il dit des nouvelles de Tchekhov est pas loin de ça par rapport à la description sur le côté un peu politique de la chose.
Il a été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il a été très très marqué par la guerre.
Et on en parle dans La séparation de la guerre.
Bien sûr, mais dans tous les romans. Parce que souvent, c'est, chez lui, il y a quelque chose de, comment on pourrait dire ça, de l'inlassable retour du passé. Mais pas narratif à la manière je raconte mon histoire ou je raconte ma vie. Non, des sensations seulement. Donc les sensations qu'il a pu avoir quand il était sur le champ de bataille. Il fait partie d'une génération qui a été complètement bousillée parce que eux, ils étaient encore à cheval alors que les autres tiraient avec des armes et tout ça, quoi. Il a été fait prisonnier, il s'est évadé. Et puis, en plus, c'est un personnage très curieux parce qu'avec une ambiguïté fondamentale de départ, puisque sa maman était d'origine du côté de Perpignan, famille aristocrate pratiquement, je veux dire descendant d'un général d'Empire, et de l'autre côté, son père du côté du Jura, des paysans et tout ça, un peu même, pas marxiste mais pas loin, quoi. Enfin, donc, il a toujours été pris dans ce réseau-là, mais ça n'a pas gêné plus que ça, mais magnifique quand même quand il en parle. De toute façon, tous ces éléments-là sont dans tous ses romans, hein, que ce soit La Route des Flandres, mais vraiment tout le temps, quoi, je veux dire.
La pièce est magnifique, c'est un huis clos, il y a deux cabinets de toilettes séparés par une cloison, deux couples en crise. D'un côté, la mère du mari de Léa Drucker qui est sur la gauche de la scène. Je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre, c'est difficile à décrire. Non, je vous laisse décrire plutôt.
Bah, si vous voulez, il y a le mur de séparation des deux salles de bain. Dans une des salles de bain, il y a les parents de Georges. Pierre et Sabine qui sont d'un côté, donc ses parents, et lui avec la femme qu'il a épousée il y a 5 ans, Louise.
Et une tante mourante dans une pièce qu'on ne voit pas.
Et surtout, personnage principal, la tante, c'est une histoire très personnelle, ça, de Claude Simon. C'est encore du passé, l'inlassable, au retour du passé.
Sa tante Mi, dont il détaille le carnet, d'ailleurs, de
compte. Oui, absolument, oui. Ah oui, moi je les ai eus en main, les carnets, c'est incroyable.
Et ces croquis aussi, vous êtes inspiré de ces peintures et de ces croquis pour monter la pièce ?
Sur la peinture, sur le décor, oui, parce qu'il avait laissé justement, il a laissé une, comment on appelle ça, une aquarelle qui représente deux salles de bain, comme ça, enfin je veux dire, donc oui, Jacques s'en est un peu inspiré, effectivement, mais... Ce qui est beau, ce qui l'intéressait plus que le roman, parce qu'il disait toujours que finalement, le côté ligne... dans le roman, ça avait un côté comme ça, linéaire, alors que là, ce qui l'intéressait profondément avec les deux salles de bain, c'est la simultanéité, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une action et une situation qui se développait d'un côté et également de l'autre, avec les chevauchements possibles. Et donc il était profondément passionné par ça. Il s'est toujours défendu du fait que c'était pas une adaptation, que pour lui, le théâtre, c'était un autre support. Elle a été créée en 64, la pièce, une fois. Il était, je crois, pas très heureux, mais il avait une espèce de grâce qui disait « Moi, le théâtre, je connais pas, donc c'est un travail d'équipe, je n'ai rien à dire. »
On pense aussi à Beckett, puisque c'est ni monologue des personnages, ni dialogue, mais personne ne s'entend, littéralement.
Ah oui. Ah ben, c'est... comment dire, c'est... Moi, je dirais que presque c'est des gens qui sont en survie, quoi. Qui sont... Il y a une mort réelle dans la pièce, donc la tante qui est en train de finir, mais qui finit, je ne sais pas comment dire, d'une manière sereine. Et de l'autre côté, je pense qu'ils sont déjà morts, quoi. Mais voilà.
Les vivants.
Mmh. Oui, c'est les vivants morts.
Il y a des phrases aussi très fragmentaires, des phrases qui s'arrêtent, qui suggèrent seulement, comme chez Beckett.
Oui, oui. Mais vous savez qu'il y a un truc très étonnant, parce que quand ils ont créé la pièce, donc en 64, évidemment la plupart des critiques pouvaient enfin se payer Claude Simon, donc ils ont tous dit « Ah ouais, bah ça y est, alors le pape du nouveau roman fait du boulevard, c'est formidable et tout ». Et ils ont pris Beckett pour démolir en disant « Depuis qu'on a vu le théâtre de Beckett, comment on peut encore écrire du théâtre comme ça, aussi bourgeois, etc. etc. »
C'est fou.
Très étonnant.
Oui.
Sauf Barthes et Michel Deguy qui ont dit « Non, non, il ne faut pas y toucher, c'est de la grande littérature et c'est une grande pièce. »
Ils ont eu parfois bon goût. Il y a Catherine Yégel dedans qui m'a fait penser à Jacqueline Maillan parce qu'elle est à la fois très drôle et tragique.
Oui, oui, oui.
Elle fait la mère de Georges. Hmm. Elle se dispute avec un mari qui est un peu déserté.
Oui, puis c'est un rôle... il y a une densité de texte énorme. Et Catherine, elle a aussi cette capacité justement d'être... à la fois sans même le vouloir, d'être dans la crédulité qui fait qu'effectivement, elle peut faire rire et en même temps, c'est complètement dramatique. Et puis, il lui a quand même inventé une drôle d'histoire, puisque finalement, dans la salle de bain, sur ses meubles, je veux dire, elle a des flacons de parfum, mais dans lesquels il y a de l'alcool. Donc, la fin est redoutable, parce qu'elle n'est plus très bien... Voilà, un peu...
Oui, ouais. elle l'est un peu. Alors, la langue est absolument magnifique. C'est une pièce assez cruelle aussi. Je pense à quand, par exemple, Georges dit à son épouse... Enfin, je le dis de mémoire, on épouse une porcelaine de Saxe et des décennies plus tard, on se retrouve avec une pige jacassante et peinturlurée.
Ouais. Il parle de sa mère, là.
Oui, on peut le prendre pour à peu près tout le monde. Okay. Et puis, il y a aussi une grande poésie. Alors ça, j'ai oublié si c'était des pastilles de soleil ou des pastilles de lumière. Quand à un moment, Georges personnifie une raie de soleil et décrit son parcours.
Ah ça c'est magnifique, ouais, c'est une raie de sol de lumière qui rentre quand il est dans la chambre de la mourante et qui rentre par la fenêtre et donc qui suit l'évolution de cette raie de lumière et finalement ça fait un thé comme le thé du temps.
Quand vous avez monté Peter Handke, vous avez retraversé ses 41 romans. Comment avez-vous fait pour Claude Simon? Vous avez tout relu?
Oui, j'ai presque tout relu. Il y en a un ou deux où j'ai calé.
Lesquels?
Oh, je ne pourrais plus vous le dire, mais...
Et vous faites ça pour tous les auteurs que vous mettez en scène?
Bah oui, parce que sinon, il vaut mieux quand même connaître. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses, parce que sinon, on peut tout monter. Hein. Enfin, je veux dire, et puis... mais même, par exemple, quand je monte Marivaux, j'ai quand même relu La vie de Marianne. L'autre, comment ça s'appelle, Le paysan parvenu. J'ai relu tout ce qu'il a écrit dans Le Spectateur. Enfin, ça me paraît indispensable. C'est juste pour se dire, bon, ça va, j'ai fait mon travail, maintenant je vais essayer d'inventer avec, quoi, mais... Voilà.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les
près de la fontaine de Nino Ferrer, c'est le standard de ce soir. Et je vous ai demandé une découverte, Alain Françon, pour les auditeurs. Vous avez choisi de parler de l'exposition qui est au Petit Palais en ce moment sur Jean-Baptiste Greuze.
Oui, bah c'est... Bon, évidemment, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc... Mais tout à coup, c'est un peintre dont on parle très peu, enfin dont on parlait très peu. Quand j'ai monté Marivaux, tout à coup, je me suis remis à regarder les tableaux quand même, parce que, bon, il y avait Chardin, il y avait tout ça, mais je trouvais quand même que lui... Et en plus, c'est quand même, au milieu du 18e, c'est le peintre le plus connu. Enfin, je veux dire, tout le monde, ça, c'est vraiment, c'est la star. Par contre, il meurt, je crois, en 1800, je sais pas combien, 5, et là, il est complètement... on n'en parle plus. Et ce qui m'a toujours frappé dans ses peintures... C'est le... Là, je ne sais plus le titre de l'expo, c'est l'enfance en lumière, non? Et j'ai toujours été frappé par les portraits d'enfants, par l'espèce de, je sais pas comment dire, de luminosité qu'il y a. Ces toiles me frappent toujours de ça, quoi. Alors je sais que, bon, ça l'intéresse énormément, mais c'est aussi c'est les lumières, hein, même sous l'influence de Rousseau et puis même de son ami Diderot, on parlait tout à coup, c'est la première fois qu'on disait l'enfant c'est un monde qui existe pour lui-même. Voilà, on parlait plus des futurs adultes et tout, on disait non, l'enfant c'est, voilà, et il a un monde et ce monde a ses règles, ses histoires, etc. et tout ça, et il n'y a rien à en redire sinon à l'observer, c'est tout, quoi. Et ça, c'était une grande. Enfin, c'était important, ça fait partie justement des Lumières. Après, sur les Lumières, on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, je veux dire ça, non. Et puis aussi, c'est. Il y a des drôles de toiles, par exemple, il y a toujours, par exemple, le père coupable, ou le fils vaincu, ou le fils, je ne sais plus. Répudié.
Parce que des figures théâtrales.
Oui, absolument. Et puis, ou alors le retour de l'ivrogne. Je ne sais plus si alcoolique ou ivrogne, je ne me rappelle plus le titre. Alors, des choses comme ça, quoi. En même temps, il y avait du social dedans, des histoires de famille. Et quand même, je veux dire, l'habileté du peintre. Alors, je sais que, par exemple, les frères Goncourt ont écrit que c'était le pire des peintres et qu'il ne fallait surtout pas que c'était ce qu'il y avait de pire, quoi.
Mais ils sont très capricieux dans leurs avis.
Mais c'est vrai qu'il devait avoir un grand savoir-faire, mais l'habileté, quand même, c'est magnifique. Je veux dire, c'est impressionnant, quoi.
Ce qui est très frappant, et c'est dans ce sens-là que c'est une boucle, c'est que j'ai toujours changé complètement le thème des pièces et puis, en même temps, on s'aperçoit quand la chose est finie qu'on raconte toujours un tout petit peu la même histoire. On n'en sort pas. C'est toujours soi qui est sur le papier. Alors, la dernière pièce, j'ai choisi un sujet qui est un fait divers, très simple, mais qui m'avait frappé à l'époque. L'histoire s'était passée en Lorraine et je ne connais pas la Lorraine. Je suis passé une ou deux fois en Lorraine, mais je ne connais pas. Alors, j'ai transposé l'histoire dans les lieux que je connais, c'est-à-dire l'Ardèche, bien sûr. Et en ce sens-là, il y a peut-être une boucle. Mais c'est ça qui est frappant, c'est que on croit toujours écrire une autre histoire, et en réalité, on écrit à peu près la même. C'est pas inintéressant non plus, et en même temps, on voudrait bouger, mais bien, il y a des limites, et puis il faut les briser.
Alain Françon, là, vous souriez, vous êtes même ému d'entendre la voix de Roger Planchon qui évoque l'infâme, sa pièce à la télévision dans Théâtre d'aujourd'hui en 69. Il est à l'origine de votre désir de faire du théâtre. Et ce qui est remarquable, littéralement, c'est que vous l'avez suivi pendant des mois. Vous avez failli être son assistant et puis finalement, vous avez renoncé au dernier moment.
Oui, oui, oui. Ben évidemment, quand j'étais étudiant, j'étais un spectateur privilégié de tous ces spectacles. Et puis, quand le théâtre éclaté a eu des problèmes financiers, tout ça, on s'est tous un peu séparés, tout en gardant, on a gardé la troupe. Et moi, je savais pas. Et puis, finalement, j'ai rencontré Roger. Puis, on s'est mis à discuter comme ça. Effectivement, j'avais un peu fait de mise en scène, ça le gênait un peu trop pour que je sois assistant, mais il était d'accord. Et puis, à l'époque, il jouait deux spectacles, hein, qu'il avait écrit sur Arthur Adamoff, qui s'appelait AA, et puis un autre qu'il avait écrit aussi, qui s'appelait Les Folies Bourgeoises. Et donc, j'allais voir dans toutes les villes de province où il jouait, et chaque fois, je lui faisais le compte-rendu de ce que j'avais vu. Mais c'était profondément agréable, enfin, c'était... Et puis un jour, il m'a dit « Bon, allez, tu viens ». Et il devait faire une pièce qui s'appelle « Gilles Doré », qu'il avait écrit sur Gilles Doré. Et pourquoi ? Ça reste un mystère. J'y suis pas allé.
Trop d'imagerie ? J'ai lu ça.
Je sais pas, à la fois intimidé, peut-être, d'une part, quand même. Mais d'autre part, je sais pas, j'avais d'autres choses, personnellement, je pense, qui me trottait dans la tête, une autre manière de... Non, où ça a été formidable, c'est que je l'ai retrouvé après, que je crois que je suis le seul metteur en scène à qui il a donné ses droits, et j'ai monté la remise. Et ça, c'était magnifique à faire. J'étais très très heureux de le faire, et c'était un homme pudique, et je me souviens le jour de la dernière à Nanterre, il est passé à côté de moi, il m'a dit « Quand j'étais enfant, on ne m'a pas fait de cadeau, mais là, tu m'en as fait un, alors merci. »
Oh, c'est beau.
Ouais.
Pendant que les heureux, les riches et les grands repose dans la soie ou dans les fines toiles. Nous autres les parieurs, nous autres les errants, nous écoutons chanter la berceuse aux étoiles.
Alain Françon.
Ouais.
J'ai choisi de vous faire écouter une chanson qui a eu un rôle particulier dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend ?
Ben, moi, je connais le titre. Je crois que c'est La berceuse aux étoiles.
C'est ça, là, elle est interprétée par Marjal en 31. Ouais.
Et donc, alors, quand vous me le faites écouter, je dois avoir 12 ans. Et je suis dans le café de ma grand-mère. Elle a fermé les volets. Et là, il reste beaucoup de...
À Saint-Étienne ?
À Saint-Étienne, oui. Et il reste beaucoup de consommateurs qui sont là, qui se connaissent tous, et ils se mettent à chanter. Et...
De toutes les nationalités.
Une des chansons dont je me rappelle, c'est celle-ci. Parce que je trouve que c'était complètement convivial. En même temps, cette chanson, elle a du sens d'une certaine manière, socialement, je veux dire, et tout ça, quoi. Et donc, ça m'est énormément resté dans la tête, ouais.
Est-ce que vous voudriez recommander une lecture pour clore notre entretien aux auditeurs ? Ce que vous voulez, de n'importe quelle époque ?
Je pense que c'est important, par exemple... je vais dire carrément ce qui m'a le plus, moi, bougé, c'est le livre de Cynthia Fleury qui s'appelle « Sigil amer ».
Ah oui, c'est magnifique, sur le ressentiment que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Justement, qui dit qu'au lieu d'être dans le ressentiment, il faut être dans l'action et la création. Ouais. Merci beaucoup Alain Françon.
Merci à vous.
Très bon conseil de lecture. Votre mise en scène de La séparation de Claude Simon est au Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 31 décembre. On pourra aussi la voir le 15, 16 et 17 janvier à Versailles. Votre mise en scène d'Oh les beaux jours de Beckett est jusqu'au 17 janvier au Théâtre du Petit Saint-Martin. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Alexandra Conné et Louise Morfouas. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Philippe Duclos.